L'aime. L'émission. L'émission. Sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans l'émission Le Magazine qui vous fait entendre le Finistère pour de vrai avec de vrais gens. Et des gens qui nous sortent un peu dehors, dans la nature, comme on dit, surtout le jeudi. Dans l'EM, c'est écologie. Aujourd'hui, on reçoit deux associations qui défendent une éducation qu'on dit alternative. Il y a Autour du Feu, une forest school de Pleneis. Il est question d'être dehors, de forêt, d'arbres. Il est question de sensations, de sensorialité aussi, de retrouver le contact avec le non-humain pour apprendre. Il est donc question d'apprendre autrement. C'est Julie Ricard qui a créé Autour du Feu. Et des parents sont là aussi, des mamans, membres du collectif IEF29, Instruction en Famille Finistère, l'autre association que nous recevons. Il s'agit de Mathilde Filiguer et de Léna Perenoum-Luller. Et justement, un rapport du Haut Conseil de la Famille vient juste de pointer l'enfermement grandissant des enfants et l'urgence à les remettre dehors. Et il y a aussi des enfants qui sont là dans le studio, qui parleront si elles ou ils veulent. Bonjour.
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 Alors, est-ce qu'on peut rappeler déjà ce que fait Autour du Feu? Et puis après, on parlera aussi de IEF 29. Donc, Julie?
Oui, tout à fait. Donc, Autour du Feu est une association qui est une forest school donc entièrement en extérieur. Autrement dit, nous travaillons sur un bout de forêt. Dans un bout de forêt, nous accueillons du public de tous âges, mais essentiellement des enfants, dans le but de les aider à développer des savoir-être et des savoir-faire qui leur serviront dans la vie.
C'est pas une école éducation nationale. Enfin, ça existe dans d'autres pays, des écoles permanentes.
Tout à fait. Hein,
mais
ouais,
là,
ouais.
Non, c'est...
Non, il existe des forest schools qui sont des écoles, effectivement, souvent hors contrat en France. Dans d'autres pays aussi, parfois, elles font même partie du système public d'éducation dans certains pays. Mais nous, c'est pas le cas. Donc, nous, on est une association, on n'est pas une école qui accueille du public du lundi au vendredi, un groupe d'enfants. On a des ateliers réguliers avec vraiment plusieurs types de publics, avec comme but le développement de ses savoir-être, comme la coopération, la résilience, la confiance en soi, l'estime de soi, enfin des trucs bien. Et voilà, et on travaille avec tout public, donc des structures médico-sociales. Nous accueillons aussi des écoles qui viennent sous forme de partenariat pendant des journées, plusieurs journées dans l'année. Nous travaillons aussi avec des structures médico-sociales, notamment avec des adultes porteurs de handicap.
Oui, voilà. Pas que des enfants. Hein.
Ouais, pas que des enfants.
Ouais. Tout à fait. Et c'est dehors, le principe.
Et c'est le principe, c'est d'être dehors par tous les temps, par toutes les saisons.
Et il n'y en a pas des masses, des forest school dans le Finistère. Il y en a une autre, bah, justement, qu'on connaît, les Jardins du Stum à Quimère. Et puis c'est tout, non?
Il y en a de plus en plus. Il y en a une sur Brest, qui a son site, je crois, à Saint-Renan. Il y en a quand même quelques-unes.
Ah oui,
maintenant. Ça essaime petit à petit. Si, si. On a de la chance, on n'est quand même pas trop mal notis en Bretagne, à vrai dire. Puisque nous, on est, Autour du Feu, on est centre de formation, donc... c'est aussi plus facile d'accéder, du coup, la formation et après de pouvoir créer son site.
Et vous, Julie, en plus, vous enseignez à vos enfants, vous pratiquez l'instruction en famille, ce qu'on appelle l'école à la maison.
Oui, tout à fait. Mes deux enfants sont instruits en famille depuis toujours et ils ont maintenant 10 et 12 ans.
Et vous faites partie de IEF 29.
Tout à fait. Voilà. Je suis aussi membre du collectif IEF 29.
Alors, ce n'est pas une association IEF 29, c'est Mathilde. Non, ce n'est pas Mathilde. Si, Mathilde Filiguer. Ouais.
Oui, si, si, c'est une association, loi 1901, qui a été créée. Alors, je ne suis pas forcément très bien placée pour en parler. Je n'étais pas à l'origine de la création. Mais qui a été créée, je crois, Julie, il y a 2 ans
ouais,
environ.
Je crois.
Ah oui, c'est tout récent.
Oui,
oui, oui, oui. C'est assez récent. Alors, ça
parce que IEF, au niveau national, ça existait déjà, j'imagine, non?
Il y a beaucoup de collectif et beaucoup d'associations qui sont, on va dire, locales et qui s'occupent de l'instruction en famille. Il se trouve que dans le Finistère, il n'y avait pas d'association loi 1901. Donc voilà, l'association s'est créée. L'objectif étant évidemment de partager des sorties parce que nous, familles qui pratiquons l'instruction en famille, sommes généralement beaucoup dehors, justement, et on se voit beaucoup entre nous. Donc évidemment, la légende urbaine qui consiste à dire que les enfants qui sont en IEF ne sont pas socialisés,
évidemment.
C'est vraiment la légende urbaine.
Ah ouais, c'est une question, forcément, c'est toujours la première question. font, oui. Est-ce qu'ils voient d'autres enfants, ces enfants, est-ce qu'ils voient pas que leurs parents et leur cellule familiale, donc non quoi.
Pas du tout, ils sont extrêmement socialisés. Bon, si je prends le cas de ma fille, non seulement elle a évidemment tous ses copains copines du village qui vont eux à l'école, mais elle a aussi tout le réseau des enfants qui sont en instruction en famille. Et sincèrement, quand vous êtes en instruction en famille, vous pourriez quasiment faire une sortie par jour, tellement il y a de choses qui sont organisées. Donc c'est extrêmement riche, extrêmement libre, extrêmement ouvert. Ce sont des enfants qui vivent dans la société, hein, qui ne sont pas cantonnés à se balader dans les rues d'une ville en dehors des heures de classe.
Non, là, ils visitent la radio. Voilà, les enfants découvrent l'univers de la radio.
Voilà, ouais. Là, ils sont dans le studio. Et voilà, donc non, c'est vraiment du domaine de la légende urbaine. Et c'est vraiment malheureux de l'entendre dire, par exemple, de la part du recteur d'académie qui nous a encore cantonnés à des gens qui, je ne sais pas quoi, ne sociabilisions pas nos enfants. Bon, donc non, c'est vraiment du domaine de la légende urbaine.
Mmh. Et donc, vous êtes combien de AIEF 29 à des parents comme ça? J'imagine qu'il y en a plus, tout le monde n'est pas dans l'association, mais...
On est 80 membres à l'heure actuelle. Ouais.
Oui.
Et puis et comme on est vraiment très récemment, on a remis un petit coup de bourre là récemment.
On va revenir là-dessus. Ouais.
Et du coup, je pense que le nombre va en grandissant, malheureusement aussi avec l'augmentation des refus.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? On va remettre le contexte, ouais. Parce que si vous êtes là, en fait, c'est parce qu'en juillet, il y a eu vous avez, participé à un mouvement, vous êtes mobilisé. Mm-hmm. Bon, alors nous, en juillet, il n'y avait pas de LEM, et puis bon, nous, on n'est pas dans l'actualité, on prend du recul, n'est-ce pas ? Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Ouais.
Les demandes, donc l'instruction en famille, pour le contexte, l'instruction en famille est soumise à un régime de demande d'autorisation maintenant. Cette année, c'était la première année que toutes les familles étaient soumises à cette demande d'autorisation. Et,
à renouveler chaque année, alors
Oui.
Ah oui.
Oui, oui.
Bon, bah, c'est contrôlé, hein, on va pas dire au contraire.
C'est juste que ce soit contrôlé.
Okay.
Là, il s'agit de demander la demande plutôt que de déclarer. C'est le grand changement qui a
une
été
demande opéré. D'autorisation, en fait.
Tout à fait.
D'accord.
Mmh. Auparavant, jusqu'en 2021, la loi demandait que nous déclarions. Mmh. Et après, nous étions soumis à un contrôle chaque année. Là, maintenant, ça a changé. Donc, la loi a changé et le régime est passé d'un statut de déclaratif à un statut d'autorisation. Donc, ça veut dire que chaque famille qui souhaite faire l'instruction en famille doit remplir un dossier pédagogique qui est quand même assez complet.
Ouais, bah oui, très bien.
Voilà. Et donc, on est soumis à une décision de l'éducation nationale sur notre possibilité ou non de faire l'instruction en famille.
Et ça a été mis en place, cette loi, parce que il y avait des gens qui disaient bon, il faut éviter le radicalisme, le séparatisme communautaire, pour des questions plus religieuses, quoi, enfin
voilà.
Politiques
ou religieuses. Ce changement de la loi est intervenu, donc c'est l'article 49 d'une loi qui s'est au départ appelée la loi contre le séparatisme, puis qui a changé de nom et qui est devenue la loi pour le renforcement des valeurs de la République.
Ben un peu comme le contrat d'engagement républicain que doivent signer les associations. Pareil, quoi.
Tout à fait.
C'était soi-disant, c'était pour prévenir le radicalisme. Et puis finalement, ça se transforme en une sorte de contrôle de tout le monde.
Ouais.
Quoi.
Donc, tout à fait. Donc, l'idée officielle de ce changement de loi, c'était de s'assurer qu'il n'y aurait pas parmi les familles EF de séparatistes. Voilà.
Et ce n'est pas le cas.
Enfin, selon le nombre de refus, donc à peu près 40%, nous avons 40% de séparatistes dans le Finistère.
Quand même.
Leur est grave.
Incroyable.
Et on en fait partie.
Ah bon, n'est-ce
pas, Léna,
vous deux,
et Léna, on ne le sait pas.
Voilà.
Léna et Mathilde, vous avez essuyé un refus.
Ce sont des séparatistes.
Oui. Nos enfants devraient être à l'école, alors qu'il est. C'est-à-dire qu'on a eu des injonctions de scolarisation. Donc on veut scolariser de force nos enfants.
Et vous, dans vos deux cas, alors vous scolarisez dès le début, vous instruisez vous-même dès le début les enfants, hein, Léna, ouais.
Alors moi, en ce qui me concerne, enfin en ce qui nous concerne, donc Astrid et Alois ont 8 ans et 5 ans et demi, donc ils ont toujours été en instruction en famille, et donc on a eu le premier refus cette année. Alors c'était pas dans le refus, c'était pas écrit qu'on était accusé de séparatisme directement, hein, bien sûr, même si on a été pris sous cette loi, on nous a dit des choses comme pour la plupart des familles, des arguments comme l'enfant n'a pas de situation propre.
Qu'est-ce que ça veut dire, ça ?
Eh ben, on ne sait pas, parce que de base, toute personne a une situation propre, une situation singulière. Donc, c'est un argument qui ne tient pas et bah qui, oui, pourtant, est avancé pour quasiment toutes les familles, en fait, qui ont un refus. Donc, c'est un argument qui n'est pas valable, qui est
incompréhensible, en plus.
Incompréhensible et qui ne fait pas partie de la loi, en fait. On n'est plus du tout dans un contexte de contrôle de sécurité pour éviter le séparatisme.
Et c'est le rectorat qui dit ça ne va pas. Enfin,
oui, c'est le rectorat.
Qui donne son feu vert ou pas.
Ouais. C'est ça. Sachant que, clairement, il y a eu des injonctions en haut lieu de refuser coûte que coûte. Et donc, tout argument, toute raison est valable. Et tout ce qu'on peut apporter de positif ou de preuve n'est pas valable. On a des réponses aberrantes comme, par exemple, on avance le fait que depuis 2019, on a eu des contrôles positifs avec le contrôle de l'éducation nationale. On nous répond que la réussite des enfants n'est pas un argument.
Donc en France, qu'est-ce qu'il leur faut?
Ah bah je ne sais pas. En France, donc la réussite des enfants n'est pas une priorité, même si on prône l'intérêt supérieur de l'enfant. Ça, c'est quelque chose qui est complètement tombé dans les oubliettes, qui existe sur le papier à l'origine et qu'on ne retrouve plus jamais.
Parce que vos enfants sont encore jeunes, hein. Évidemment, il n'y a pas d'examen à la clé pour l'instant, il n'y a pas eu de brevet des collèges ou de je ne sais quoi, mais voilà, vous passez des évaluations peut-être?
On passe des évaluations et pendant les évaluations, en fait, il y a des acquis qui sont contrôlés. Et bon, ces acquis sont largement atteints dans la plupart des familles en instruction en famille, puisque l'instruction se fait au cas par cas, de façon personnalisée. Donc ce sont des enfants qu'on observe, pour lesquels on répond vraiment aux besoins spécifiques. Et l'enseignement se base aussi sur ce qui les intéresse. Donc un enfant qui est intéressé, c'est un enfant qui apprend.
Et oui.
D'ailleurs, au contrôle, par exemple pour Astrid, elle a largement un niveau de CM1, CM2. Déjà,
elle a 8 ans.
Elle a 8 ans, mais elle l'avait déjà elle a été contrôlée en CP, c'était évident. Donc voilà, c'est un exemple. Ça ne veut pas dire qu'ils sont en avance sur tout. C'est d'ailleurs pas le but de l'instruction en famille. Le but, c'est d'apprendre à son rythme, d'être respecté et d'apprendre le plus de choses possible. Et en fait, les enfants demandent à apprendre par toutes les façons possibles. Et c'est vraiment un plaisir de le faire parce qu'ils sont, ils absorbent tous les apprentissages et ils apprennent très très vite.
Mathilde, vous, qu'est-ce qu'on vous a dit ?
Alors, déjà, je vais rajouter, justement, pour venir compléter ce que disait Léna, en fait, sur l'ensemble des familles qui sont en instruction en famille, 98,7% sont contrôlés positivement par les services de l'éducation nationale. Ça, c'est un chiffre.
Mais oui, en effet.
Il n'y a pas très longtemps, il y a le ministre délégué à la réussite scolaire qui nous disait qu'il y avait un tiers des enfants qui rentraient en sixième, qui ne savaient pas lire correctement, qui ne savaient pas écrire correctement. Nous, c'est 98,7% de réussite.
Ils savent lire, qui savent compter, tout ça, tout
voilà.
Ça.
Donc, il serait quand même peut-être temps que les familles qui font instruction en famille soient considérées aussi dans un cadre d'essai d'amélioration de l'instruction publique.
Mais c'est ça.
Vous voyez ce que je veux dire? Et quand je parle d'instruction publique, c'est... Oui. C'est certes évidemment l'école, les écoles hors contrat, sous contrat, etc. Mais c'est aussi les familles en instruction en famille. Aujourd'hui, on a 72 000 dossiers qui ont été déposés pour la demande d'autorisation de gens qui réussissent avec leurs enfants. C'est pas rien, 72 000 réussites. Vous voyez, c'est 72 000 expériences de réussite en termes d'instruction.
Oui,
mais ça c'est balayé d'un revers de la main.
Mais j'ai envie de dire, en plus, ça coûte pas grand cher à l'éducation nationale.
Non, c'est même des économies même... pour eux, parce qu'on dit qu'un enfant coûte 10 000 euros. Enfants ne leur
un enfant scolarisé.
À part le contrôle qui est fait une fois par an par l'inspecteur, par le conseiller pédagogique. Bon, alors en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que finalement, avec cette nouvelle loi, l'école est devenue obligatoire. C'est la première fois dans notre société que l'école est devenue obligatoire.
Alors qu'avant, c'était l'instruction qui
était obligatoire. Exactement. Donc aujourd'hui, l'école est obligatoire. Et ce qu'on nous dit, c'est en gros, votre enfant est, entre guillemets, normal, il est parfaitement scolarisable, donc il va à l'école.
Voilà. Oui, parce qu'il y a la question aussi de pourquoi vous avez choisi ce mode d'enseignement-là. Enfin, à part le fait que vous êtes convaincu et on comprend que c'est très bénéfique, est-ce qu'il y avait d'autres raisons?
Alors, pour ce qui est de notre cas à nous, en fait, on a sorti notre fille de l'école. Nous, on est des parents issus de l'instruction publique. Moi, j'ai été à l'école toute ma vie, on peut dire. J'y suis encore puisque je suis prof à la fac. Enfin bon. donc j'adore l'école, si vous voulez.
Ok, super.
Donc quand j'ai eu ma fille, on l'a mise à l'école du village. Et puis après, c'était en période de Covid, donc il y a eu l'imposition du port du masque pour tous les enfants de 6 ans. Et ma fille rentrait au CP, donc elle allait apprendre à lire et à écrire. Donc j'avais pas envie qu'elle apprenne à lire et à écrire avec un masque. Donc nous, on l'a sortie pour cette raison.
D'accord.
Mais à vrai dire, Et puis, si vous voulez, quand vous commencez l'instruction en famille, vous n'avez plus envie d'arrêter. Ouais. Parce que c'est ce que disait Léna, en fait. Le truc, c'est qu'un enfant qui est instruit en famille, il ne va pas passer, évidemment, 6 heures par jour à faire des maths et du français. Parce que
oui, parce qu'il faut avoir le temps. Enfin, si vous travaillez.
Mais non, mais c'est pas ça. C'est des cours particuliers, si vous voulez, oui. que vous donnez à votre enfant. Mmh. Donc, en fait, l'enfant.
Oui, c'est plus efficace, en fait. Il n'y a pas besoin de faire 6 heures, quoi.
Mais okay, exactement. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, en fait, ça laisse beaucoup, beaucoup de temps à l'enfant pour faire plein de choses. Mmh. Et donc, bah, vous avez une surenchère de temps que vous occupez en faisant. Bah, votre enfant il commence à faire ci, il commence à faire ça, des activités ci, cela. Et puis nous, ça fait donc 4 ans qu'elle fait instruction en famille. Et quand on leur dit la situation propre de notre fille, c'est d'être en instruction en famille et donc de s'être construit une vie autour de ça, ouais. il balaye ça d'un revers de la main en nous disant non, votre fille est scolarisable, elle va à l'école et les activités qu'elle fait, karaté, danse, chant et compagnie, etc., elle peut les faire soit à l'école, soit en dehors du temps scolaire. Mais de qui se moque-t-on ?
Oui, de qui se moque-t-on ?
De qui se moque-t-on ? Ouais. Alors qu'on ne demande rien à personne, on satisfait au contrôle, nos contrôles sont toujours positifs. C'est juste que, voilà, l'intérêt supérieur de notre enfant, c'est évidemment de ne pas modifier ce qui fonctionne. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire ?
Je vois très bien. Julie, vous avez droit.
Oui.
Voilà. Waouh. Bravo.
J'ai envie de dire pour cette année.
Ah oui, c'est ça. Oui, bien sûr, bien sûr.
C'est important.
C'est ça. Voilà. Rien n'est gagné, apparemment.
Oui. Nous avons eu les autorisations. Je sais pas comment, mais
grâce à la Forest School, peut-être, non ?
Oui, je pense aussi. Donc, malheureusement, ça montre bien le côté
au
cas par cas institutionnel et arbitraire de la chose. Donc, oui, nous à la Forest School, on a de nombreux partenariats avec l'Éducation nationale. Et je suis du coup connue des services de la DASEN. Je suis aussi connue parce que je suis une grande gueule, que j'organise les manifs.
Ouais, c'est ça.
Donc voilà, ouais. donc effectivement, nous avons les autorisations. Voilà pour cette année. Hein, je me fais pas trop d'illusions. Je pense qu'un jour nous ne les aurons pas.
Et sinon, pour les raisons qui font qu'on met ses enfants aussi en instruction en famille, c'est aussi peut-être parce qu'il y a des phobies scolaires, ça peut être des raisons un peu négatives aussi.
Du coup, tout à fait. Alors, il y a la loi donne, je ne sais pas, ça vaut peut-être le coup pour les auditeurs de reposer un peu le cadre. La loi donne 4 motifs. Donc, les familles, quand elles font leur demande, doivent choisir l'un de ces motifs. Non pas 2 ou 3, mais un de ces motifs. Il y a le motif de handicap.
Donc okay. Là, ça sera accepté s'il y a un handicap.
En gros, oui.
Non, pas forcément. Léna fait non.
Ouais, avec son doigt. Ça dépend. mais globalement.
Il y a beaucoup de familles qui ont des refus parce qu'on leur dit l'école s'adapte.
Oui,
l'école s'adapte. Oui, l'enfant n'est pas assez handicapé, entre guillemets, des choses comme ça.
En gros, en regard un peu cynique sur la question, on pourrait dire que les enfants qui sont trop difficiles pour l'éducation nationale, ceux-là auront l'autorisation.
Bah, ça l'arrange bien.
Voilà, on est d'accord. Donc il y a ce motif-là, motif handicap ou maladie. Il y a le motif nomadisme de la famille. Donc si une famille est...
Gens du voyage.
Voilà. Ou par exemple, je ne sais pas, ça peut être des artistes qui sont amenés
en tournée,
etc. Bon, voilà. Il y a une pratique artistique ou sportive intensive. Mais en gros, là, il faut se préparer à être
sport
olympien.
Études, si on veut, quoi. Ouais.
Non, mais en gros, très simplement, c'est ce qui m'a été dit par un des inspecteurs. Donc, voilà. Donc, si on se prépare à être olympien, alors ça va. Sinon, ça compte pas. Et puis, après, il y a le fameux, le motif 4. Et donc ça, c'est le fousitou de l'instruction en famille, c'est-à-dire toutes les personnes qui ont un enfant, on va dire, ordinaire et juste, c'est leur souhait d'instruire en famille, donc nous trois s'y présentes, là c'est le motif 4 et donc il faut justifier de cette fameuse situation propre comme le mentionnait Léna, et le problème c'est que l'éducation nationale elle-même avoue ne pas savoir définir la situation propre. Donc on est vraiment dans une situation justement où on se retrouve à demander aux familles à justifier leur situation propre, mais comme par hasard, comme il n'y a pas de définition de cette fameuse situation propre, on peut dire, nous, de notre côté, ce qu'on veut. L'éducation nationale sera toujours en mesure de dire « Votre enfant n'a pas de situation propre ».
Ah, c'est ça, la fameuse situation propre, je commence à comprendre.
Voilà.
Oui, Mathilde.
Ouais, je voudrais... Alors, d'autant qu'en fait, on sait maintenant que tout ça est absolument biaisé.
Ouais.
Donc, en fait, tout ça, c'est du pipeau. Pourquoi ? Pourquoi on le sait? Parce que le 18 septembre 2024, donc il n'y a pas très longtemps, devant la commission éducation de l'Assemblée nationale, a été auditionnée la directrice générale de l'enseignement scolaire qui s'appelle Madame Caroline Pascal, et qui a avoué qu'en fait les objectifs portés par la loi n'ont rien à voir avec des problèmes de séparatisme, c'était simplement de faire une purge de l'instruction en famille.
Ah oui, elle l'a dit.
Elle l'a dit. Ah ouais. Si vous voulez, je peux vous citer ces mots. Hein.
Bah, au moins c'est clair.
Voilà ce qu'elle a dit, Caroline Pascal, la directrice générale de l'enseignement scolaire. Nous avons des résultats par rapport aux objectifs qui avaient été portés. Ah ah, tiens, bon, d'accord. C'est-à-dire de réduire notamment la très forte hausse qu'il y avait eu après le Covid. Nous étions en 2018-19 à 35 000 élèves en instruction en famille. Nous sommes passés à 72 000 élèves à la sortie du Covid et revenus aujourd'hui à 35 000.
Ah ouais.
Donc les objectifs qui étaient portés, c'était de faire une purge de l'instruction
en famille. De casser la dynamique post-Covid.
Bien sûr, voilà.
Quoi.
Et elle va même jusqu'à dire qu'elle a envoyé une note de service au recteur d'académie pour leur dire d'harmoniser les chiffres. Donc quand ils nous disent que nos dossiers sont étudiés au cas par cas,
c'est
archi
d'accord.
faux.
Il y a des sortes de quotas, quoi.
C'est une politique de quotas discriminatoire. Et donc pour cela, on peut évidemment porter plainte pour discrimination.
Donc vous allez le faire, non, Léna?
Je voudrais quand même rappeler que dans toute cette histoire d'instruction en famille, de base, c'est un droit qui est fondamental, qui fait partie des lois qui régissent ce pays.
Ouais. C'est une liberté.
C'est une liberté qui est textuellement écrite dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est donc un droit constitutionnel. Donc c'est pas du tout quelque chose qui a été inventé, tiré du chapeau, parce que à la base, je sais pas, moi, il y a des gens qui voulaient pas être comme tout le monde. Ça fait partie. Il y a 4 modes d'instruction en France. Il y a les écoles publiques, les écoles privées, les écoles dites alternatives et l'instruction en famille.
Bah déjà, les écoles alternatives, elles ont du mal souvent. Hein,
voilà,
elles ont des problèmes.
Elles ont des problèmes. En France, on aime beaucoup, on prône la diversité, mais on n'aime pas la différence. Hein,
en fait, c'est ça. Voilà. Ouais, y a quand même ça. Les enfants, j'ai envie de vous faire parler, si vous voulez en tout cas. Tu veux parler, non? Vous préférez écouter? Non, si quelqu'un veut parler? Pour dire ce qu'il aime dans l'école, l'instruction en famille. Comment tu t'appelles?
Ouna.
Alors raconte-nous comment ça se passe pour toi, l'instruction à la maison. Qu'est-ce que tu aimes?
Je me lever quand je veux.
Bah oui, déjà, ça commence bien. Bah, t'as ton content de sommeil déjà. Ouais.
Et puis, comme il n'y a pas beaucoup d'enfants, vu qu'il n'y a que moi, je peux me confier à ma maîtresse ou à mon maître. Et je pense que c'est quand même bien parce que quand j'ai des questions, elle n'est pas tout le temps avec un autre enfant.
Tu peux avoir la réponse tout de suite, quoi.
Oui, voilà.
Oui, tu veux parler aussi? Vas-y, comment tu t'appelles?
Aloïs.
Non, Aloïs veut pas
veut bien mettre son casque. Aloïs sourit de toutes ses dents.
Astrid. Tes deux parents font l'école. Oui.
Oui.
Et est-ce qu'il y a une spécialité de chacun, ou est-ce qu'ils font un peu de tout?
Mon père, c'est plutôt les maths, l'histoire. C'est plutôt le français, l'histoire et la science aussi un peu.
Et Julie, est-ce qu'on connaît d'ailleurs des résultats d'études sur les bienfaits de l'instruction en famille, je ne sais pas, en termes de santé ou autre?
Moi, je ne suis pas trop calée résultats d'études, mais... Il y a forcément le fait qu'un enfant puisse nourrir ses besoins de mouvement, par exemple. Par exemple, quand j'évoque la possibilité d'aller au collège avec mon aîné, il est choqué qu'on demande aux collégiens de rester assis pour entre 7 et 8 heures par jour. Enfin, lui, il n'est jamais assis, en fait. Enfin, voilà, donc il y a forcément les bienfaits qu'on connaît du mouvement, du dehors. Moi, je suis plutôt versée là-dessus. Mais en tout cas, mon expérience, c'est qu'il y a de nombreux enfants qui ont été instruits en famille, qui créent leur métier, qui passent leurs examens s'il y a besoin. Avec de très bons résultats, parce que finalement, quand leur motivation intrinsèque est nourrie et que leur envie est là d'aller étudier un certain sujet, ils y vont. Enfin voilà, mon fils qui est en niveau 5e fait la semaine prochaine son premier stage professionnel.
De quoi?
De chez un luthier.
Ah oui.
Voilà, donc il n'a pas attendu qu'il soit d'être en quatrième, que les profs lui imposent un stage. Moi, je reçois autour du feu des collégiens qui viennent faire un stage de collège ou de lycée et qui sont en mode oh, « mais c'est la galère pour trouver un stage, je ne comprends pas », et qui n'ont pas envie d'aller
oui,
faire
c'est
ce
ça,
stage.
Aussi, oui,
c'est, hein, c'est aussi ça, c'est aussi, ils sont forcés par un système. Là, mon fils, il m'a dit, ben moi, je suis prêt, là, je vais aller faire mon premier stage. Il a organisé pour cette année 2 stages en entreprise sans aucun problème. Bon, donc ça, c'est de la réussite pour moi. Ça veut dire que ça fonctionne. Quand un gamin de 12 ans est capable de dire, ben moi, je sais ce que je vais faire, je sais comment je vais le faire, et je lui mets les moyens en place, c'est lui qui a organisé tout son stage, hein, les dates, l'appel
en fait,
aux professionnels.
Ils sont formés à la gestion de projet, entre guillemets.
La convention de stage, ouais, c'est lui qui l'a imprimé, qui est allé la chercher sur le site de l'éducation nationale. Enfin,
c'est des enfants extrêmement débrouillards.
Oui, ouais. Je pense, quoi.
Ouais, c'est ça. Ouais. J'aurais eu juste, alors une dernière question, mais il reste que 30 secondes, c'est est-ce qu'on peut être parent, avoir un travail, enfin un métier et instruire ses enfants? Oui.
Oui, si après c'est des organisations, c'est quelque chose qui se réfléchit en amont, c'est pas sauf dans les situations où on retire son enfant pour une raison précise, particulière, un projet comme le nôtre, c'est quelque chose qui était déjà réfléchi, je pense, bien avant que j'ai des enfants.
Dans vos emplois du temps.
Voilà. Ouais, ouais. Et moi, par exemple, à titre personnel, moi je suis infirmière, donc je suis infirmière libérale, donc je travaille dans un cabinet quelques jours par mois. Ce qui me permet de garder un contact avec un travail, avec un métier que j'aime, en étant très disponible auprès des enfants. Et comme on disait tout à l'heure, comme ce ne sont pas des temps scolaires du lundi au vendredi de 8h à 17h ou de 8h à 16h30, il y a tous les jours 2-3 heures de possibilité pour travailler. Et les jours où il n'y a pas, en fait, ce n'est pas grave. Ce n'est pas des jours ratés. C'est juste qu'ils ont leur content, leur quota d'apprentissage, peu importe comment on s'y prend.
Comment ça se répartit, voilà. On s'adapte. Très bien. Bon, on va devoir arrêter là, même si l'émission aurait pu durer 1 heure. J'ai bien conscience de ça. Je vous remercie à tous et toutes d'être venus. Et on pourra réécouter et avoir les informations aussi sur Autour du Feu ou sur IEF29, Instruction en Famille Finistère, sur le site internet de la radio. Merci. Au revoir.
Et vous, merci beaucoup.
Merci. Au revoir.